La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Nous sommes au Musée national d'art moderne avec Christian Boltanski et nous sommes en train de visiter son exposition qui s'appelle « Faire son temps ». En fait, Christian Boltanski est mort d'un accident qui n'est pas arrivé en 1969. Ça a 40 ans. Et 40 ans après, nous visitons cette exposition et nous avons choisi avec Christian de la visiter à l'envers. Et un petit peu comme une anecdote, je crois. Est-ce que, Christian Boltanski, vous n'aviez pas, lorsque vous étiez assez jeune, choisi d'arracher vos poils de barbe peu à peu ?
Oui, ça, j'avais une grande angoisse de devenir adulte. Et j'arrachais tous mes poils de barbe. Et j'en ai dû arracher des centaines, mais il y en a encore beaucoup. Et ce qui est assez douloureux, je dois dire, mais c'était l'idée, le désir de rester enfant.
Et en fait, lorsque nous allons visiter l'exposition à l'envers, vos poils de barbe vont disparaître peu à peu. Et lorsque nous serons à l'entrée de l'exposition, nous serons en 1967 ou 68.
Oui, vous 67, serez... le premier tableau de 1967, le premier tableau qui est ici, est 67. Et pour parler de poils, enfin, il y a dans une vitrine des cheveux à moi, qui était une chose que j'ai faite il y a très longtemps, j'ai embrouillé mes cheveux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai plus aujourd'hui. Mais comme je faisais un envoi assez complet, assez gros, j'ai mélangé mes cheveux aux poils des caniches de ma mère, qui avaient des poils noirs exactement comme mes cheveux. Et donc, je pense qu'un jour, peut-être qu'un scientifique va examiner ses cheveux et va trouver des poils tout de même un peu étranges pour un humain. Et donc j'avais ce lien avec cet animal, nous avions les mêmes cheveux.
Alors c'est extraordinaire parce que vous commencez évidemment à l'envers de la l'envers, donc c'est parfait. Et d'ailleurs il y a une autre histoire de cheveux sur laquelle j'aimerais bien vous interroger. Avant que nous soyons dans l'exposition pour la visiter, dans un des sens que nous avons choisi, c'est l'histoire d'un mannequin que vous aviez décidé d'avoir avec vous et que vous faisiez parler lors d'une période de sorte de scénette comique. Un mannequin ventriloque qui a eu aussi une histoire de cheveux, je crois.
Oui, alors là, c'est une histoire très étrange. Donc, il y a eu une période de ma vie influencée par le comique allemand Karl Valentin, où je racontais les histoires du petit Christian, et le petit Christian était une poupée. Et je jouais en ventriloque le père, la mère, etc. Et le petit Christian avait une très belle chevelure, comme celle que j'avais. Et puis un jour, je me suis plus occupé de lui, je l'ai laissé dans une cave. Et quand j'ai retrouvé quelques années après, il avait perdu ses cheveux. Comme moi, j'avais perdu mes cheveux entre-temps. Donc, nous avions perdu les cheveux en même temps.
Alors, il y a une phrase de l'un de vos frères qui commence comme ceci. On va écouter le texte en enchaînant. « À force de raconter notre histoire, de la mettre en boîte, de la tourner en dérision, de la pétrir, de la triturer et d'autres récits, peut-être que vous n'êtes plus capable aujourd'hui de démêler le vrai du faux. »
À force de raconter notre histoire, de la mettre en boîte, de la tourner en dérision, de la pétrir, de la triturer, de la mélanger à d'autres récits, il disait ne plus être capable de démêler le vrai du faux. Il en venait à douter, et par là même nous aussi, des anecdotes, socle de notre mythologie familiale, qu'il ressassait depuis des années. Elles n'étaient plus que des éléments d'une biographie officielle, présentée comme largement factice. Des matériaux d'une œuvre voulue impersonnelle, exploitée sur un mode quasi sociologique. De sujets, nous étions devenus des objets interchangeables. des miroirs renvoyant le visage de chacun. Nous qui flottions sans attache, sans ramification, nous qui, du fait de nos origines biscornues, de nos coutumes particulières, de notre refus ou de notre incapacité à faire partie d'un quelconque groupe répertorié, nous qui pensions être différents des autres, au point de vivre repliés sur nous-mêmes, ressemblions enfin à tout le monde.
La vérité est une chose pas tout à fait simple. Quand je travaillais, j'ai beaucoup d'œuvres qui sont faites avec des photographies de Suisses morts. Et quand je faisais une œuvre, par exemple, sans Suisses morts, j'en mettais toujours un vivant. Et donc le titre était faux et je disais, il suffit d'attendre quelques années pour que le titre soit vrai. Donc le mensonge d'un jour peut être la vérité du lendemain. Et effectivement... L'art, c'est l'artifice. Donc, c'est un mélange de vrai et de faux. De toute façon, ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de faire ressentir la vérité. C'est l'acteur qui boit un verre d'eau, il n'a pas soif du tout, mais on a l'impression qu'il a très soif. Et donc, c'est la même chose dans tous les domaines artistiques.
Alors, lorsque vous étiez au début de votre existence d'artiste, on est également en 69, vous avez décidé de devenir un héros. Il fallait bien qu'il y en ait un, dites-vous à ce moment-là. Je vais lutter contre la mort, qui est une chose honteuse, comme chacun sait, et je vais partir à la recherche de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qui a été vécu, de façon à le rassembler, à ce que rien ne soit perdu.
Oui, j'ai fait ce petit texte que je pourrais signer aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a toujours la même idée, et on répète toujours la même chose. Mais ce que je fais avec David Walsh en Tasmanie est un petit peu ça, parce que...
David Walsh, c'est un grand mécène qui a également un grand musée en Tasmanie et qui est un industriel du jeu.
C'est un joueur professionnel qui a gagné beaucoup d'argent au casino et maintenant sur les courses de chevaux. Donc, il y avait eu un accord entre lui et moi, il a acheté ma vie. Et donc, dans cette moitié bunker, moitié caverne qu'il y a en Tasmanie, il y a des centaines, des centaines, des centaines de DVD. Chaque jour, c'est un DVD. Et il a donc fait ce que je désirais faire, c'est-à-dire qu'il a mis ma vie en boîte. Et donc maintenant, ma vie est dans cet endroit de Tasmanie. Et naturellement, c'est comme les ordinateurs, quand il y a trop d'informations, il n'y a plus d'informations. Mais comme il y a des milliers d'heures de DVD, on me voit ou on ne me voit pas, parce que mon atelier est filmé par plein de caméras, que j'y sois ou que j'y sois pas, finalement, il y a trop de documents, il y a trop de choses. Et aussi, pour lui, on ne peut pas regarder quelqu'un vivre et vivre soi-même. Donc il a payé quelqu'un pour me regarder. Cette masse gigantesque, en fait, ce que je souhaite, c'est que, après ma mort, il augmente la vitesse de ses DVD de 3000 ou 4000 fois, et puis qu'il y ait un prompteur et qu'on puisse arrêter de temps en temps on me verra, de temps en temps on me verra pas. Mais la seule manière d'utiliser toute cette masse gigantesque d'informations, évidemment, c'est de l'accélérer et de penser au hasard.
Ce hasard est un dieu que vous avez déjà sollicité, je me souviens d'une œuvre, ça devait être autour de l'an 2000, où vous avez... choisi toutes les informations qui devaient passer sur une télévision ou sur l'INA ou sur quelque chose comme ça. Et on arrêtait toutes ces informations au hasard parce que c'est tout ce que vous aviez vécu en fait.
Oui, c'est quelque chose qui s'appelle le 6 septembre. J'avais appris, le 6 septembre est ma date anniversaire, donc j'avais pris ça.
Moi aussi. Hein.
Ah oui, c'est incroyable. Et donc j'avais pris ça au hasard. Et effectivement, c'était les journaux télévisés avant les actualités du 6 septembre. Et évidemment, on prend un jour au hasard et il y a toute l'histoire. Enfin, c'est une chose bien connue qu'on regarde à la loupe quelque chose et que tout est là-dedans. Donc il y avait la guerre du Vietnam, enfin, il y avait tout ce qui a fait notre jeunesse était là. Et ça passait très, très vite comme ça. Et puis, on pouvait arrêter. Et de temps en temps, on voyait quelque chose qu'on devait reconnaître. C'était un petit peu, hein, je me souviens de Pérec, mais je me souviens un peu hasardeux comme ça. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard, parce qu'en fait, le hasard est une question religieuse. C'est-à-dire que si je me fais écraser en sortant d'ici, est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que c'est la destinée? Est-ce que c'est écrit quelque part que je dois me faire écraser et que je suis arrivé 5 minutes en retard, mais que tout ça a un sens que je ne peux pas comprendre, mais a un sens et est écrit quelque part? Ou est-ce que c'est simplement le désordre et le hasard? Moi, n'étant pas croyant, je pense que c'est plutôt le désordre et le hasard. Mais, évidemment, c'est une vraie question.
C'est bon. Comme l'émission aura eu lieu, c'est plus si grave, si je puis dire.
C'est gentil de me dire ça. Oui, effectivement, il restera ça.
Non, il reste autre chose, donc, puisque les auditeurs entendent, pendant que nous parlons, un son très particulier, très beau d'ailleurs. Et c'est le son d'une installation que vous avez faite qui s'appelle Animitas. Vous en avez fait plusieurs versions et qui est là dans l'exposition sous la forme vidéo. Mais qui est une exposition qui a eu lieu, une installation qui a eu lieu réellement.
Elle a eu lieu réellement dans le désert d'Atacama et dans le nord du Québec. Mais en fait, tout ça a disparu très très vite parce qu'il y a des grandes tempêtes de vent. Et de toute façon, c'était des lieux que personne ne pouvait trouver, qui étaient des lieux totalement égarés. Et donc, aujourd'hui, il n'y a certainement plus rien du rien.
Mais curieusement, c'est pas ce rien qui vous a tenté, c'est plutôt la sensation de faire une installation qui soit très près du ciel, puisque c'est un endroit où le ciel est peut-être plus près de la terre que n'importe où ailleurs.
On est à 4000 mètres d'altitude et c'est l'endroit le plus sec au monde, donc on ressent le ciel d'une manière prodigieuse, d'ailleurs des grands observatoires qui sont dans ce désert. Et donc, effectivement, ce qui m'a touché, c'est ça, et également, bon, animitas veut dire petites âmes. Et selon des routes au Chili, quand il y a eu un accident, ils font un petit hôtel et ils appellent ça des animitas. Et pour moi, c'est des esprits. C'est des esprits. Et dans ce désert, Pinochet lançait ses malheureux prisonniers torturés et les abandonnait dans ce désert. Donc c'est un désert où errent beaucoup d'esprits.
Alors vous avez demandé l'autorisation d'installer cette œuvre dans le désert de l'Atacama et vous avez fait un échange.
Non, voilà, j'étais invité à faire l'exposition à Santiago et comme je n'avais pas très envie, j'aurais dit d'accord si je peux aller cette pièce dans le désert d'Atacama. Et dans l'exposition, on voyait en webcam le désert d'Atacama, ce qui était joli mais ce qui n'était pas possible de refaire par la suite. Et donc je l'ai filmé 12 heures, enfin, du matin juste de la nuit à la nuit. Mais cette œuvre est une œuvre qui est pour moi apaisée. C'est-à-dire que l'exposition commence par l'homme qui tousse, que j'ai fait étant très très jeune, et qui est risible mais violent, et se termine par ce que moi j'appelle « après ». C'est-à-dire, il y a ces petites clochettes qui bougent au vent et qui sont pour moi un lieu d'apaisement. C'est donc ce chemin que j'ai voulu désigner, de l'homme qui tousse, de l'homme souffrant jusqu'à la fin, et la fin, c'est l'apaisement. C'est une chose qui est liée à l'idée de repos. Il y a une histoire comme ça pour raconter des histoires. C'est un ami irlandais qui m'avait dit. Son père était en train de mourir et il lui dit « c'est pas grave du tout, c'est comme de prendre l'avion. Avant, on a peur de ne pas avoir son ticket, de perdre sa valise. Puis l'avion part et on est tranquille. » Et donc, les animitas, l'avion est parti, quoi. On est enfin tranquille.
Alors, il y a deux animitas. Il y en a une que nous venons de voir, donc qui est dans le désert de l'Atacama, et une autre
qui est au Canada. Au nord du Québec, vraiment très, très au nord, dans un endroit totalement glacé. Et là, ça fait perdre tout. On ne sait plus où on est.
Alors, elle est sous la neige. C'est très beau aussi, c'est le contraire.
Oui, là c'est le blanc qui arrive, et le blanc qui arrive, et puis petit à petit, le ciel se couvre, et ça devient de plus en plus immatériel.
Et alors, en face de ce blanc, il y a un immense noir, très impressionnant, qui est un très grand tas, qui s'était trouvé au Grand Ornu d'abord, je crois.
Oui, cette salle est vraiment très liée au Grand Ornu, c'est-à-dire que... On avait appelé cette montagne un terril. Et puis autour, il y a cette sorte de mémorial aux mineurs du Grand Ornu. Donc c'est des milliers de boîtes avec dessus les noms ou les photos des mineurs de leur, au moment de leur engagement dans la mine. Et quand j'avais montré ça, il y a à peu près une trentaine d'années, il y avait encore des descendants, il doit y en avoir encore de ces mineurs, parce que ces mineurs, les photos sont prises dans les années 1920, par là. Et je me souviens d'une femme qui me disait, est-ce que vous ne pouvez pas, parce que le mur est très haut, descendre la boîte de mon père, parce que j'aimerais mieux qu'il soit en bas, à vue d'œil.
Qu'on puisse le voir, plus facilement. Parce que le mur fait 4,10 m à peu près, donc les boîtes s'empilent.
Il y en a forcément certains qui sont mieux placés et d'autres qui sont moins bien placés.
C'est le hasard de la vie dont vous parliez tout à l'heure. Et alors, dans la perspective de cet immense tas de vêtements noirs, qui est un thème qui revient toujours dans votre travail, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, parce qu'on va rencontrer ces vêtements dans d'autres circonstances, il y a l'Argentine. Et nous avons devant nous la mer, c'était très inattendu, et on entend des sons très particuliers, ceux des baleines peut-être.
Donc là, c'est en Patagonie, j'avais appris que les Indiens de cette région pensaient que les baleines, comme d'ailleurs je crois dans beaucoup de cultures, savaient le début des temps, connaissaient la réponse. Et donc, comme toute ma vie, j'ai essayé de chercher la réponse, je me suis dit, on va demander aux baleines. Et donc, j'ai travaillé avec un acousticien, et on a fait ces grandes trompes qui bougent dans le vent, et quand le vent s'engouffre à l'intérieur, on entend un son proche de la parole des baleines. Alors, naturellement, les baleines ne m'ont pas répondu, mais disons, on peut imaginer que tout ça va être détruit, que de toute façon, personne ne peut les voir parce qu'ils sont vraiment cachés dans un endroit très désertique, et que d'ici 6 mois ou 1 an, elles vont s'effondrer. Mais peut-être il va rester chez les habitants de cette région l'histoire qu'un homme est venu pour parler aux baleines. Et donc, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est plutôt de créer des sortes de légendes qui soient des petites paraboles. Et donc là, ça en est une.
Alors, c'est un grand triptyque vidéo qui est la représentation de cette installation au nord de la Patagonie, sur la côte atlantique, bien entendu. Devant nous, trois... comment est-ce qu'on peut appeler ça, bouche à son des...
Oui, c'est là que le vent s'engouffre d'un côté, ça bouge comme des girouettes, et ça ressort de l'autre côté.
À droite, un monde immaculé, naissant, dans lequel peut-être dans quelques instants, une baleine ou un animal va apparaître. Et à gauche, la baleine morte, son squelette. Et donc là aussi, sur le fond tranquille de la mer.
Tout ça était pris au même endroit, et c'est une vanité là aussi.
C'est tout à fait une vanité. Alors vanité, puisque nous sommes juste à côté, est-ce qu'on peut appeler cela comme ça ? Je pense à ces dates. Je suis dans une salle grise et au mur, il y a des dates. C'est un tombeau ?
Non, là, c'est les dates de gens proches de moi, d'amis ou de famille qui sont morts. Et il y a toujours deux dates et un petit tiret. Et ce que j'ai voulu exprimer là, c'est que la vie était ce petit tiret entre deux dates. Et que c'est ce qu'on voit dans les cimetières, on voit deux dates et un petit tiret, et que c'était ça la vie. Et donc je connais ceux qui sont sur ces panneaux, je suis le seul à les connaître. Et voilà, c'est aussi une petite chose, une petite parabole. Qu'est-ce qu'une vie ?
Alors, au-dessus du tiret, il y a une lumière, un tout petit néon très court, qui est la lumière que fait ce... On a l'impression qu'il y a une relation entre ce tiret et ce néon.
Cette lumière est froide, disons. Elle est froide et elle éclaire très doucement. Et au centre de la salle, il y a ces images qui sont tirées du journal détective d'il y a très très longtemps. Et là, certains sont des victimes, d'autres sont des assassins. Mais naturellement, il est très difficile de déterminer qui est qui. Il y a une image d'un bébé, les bébés sont rarement assassins, mais pour les autres, c'est toujours compliqué de savoir.
C'est une idée, cette relation, qui est l'assassin, qui est la victime, à partir des figures détectives, dont vous avez fait une très grande installation, un très grand mur, une fois.
Oui, il y a cette pièce-là qui s'appelle Menschlich. qui veut dire humain. Et c'est là, il est petite partie de cette œuvre qui est gigantesque. Et c'est la paix des cimetières. On ne sait plus qui sont tous ces gens. C'est des visages. On ne sait plus qui ils sont. Certains, vous savez, c'est vraiment les vieilles idées. Certains sont cruels, d'autres sont victimes, d'autres ont été heureux, d'autres ont été malheureux. On ne sait plus rien. Et on sait simplement qu'ils ont été humains. C'est tout ce qu'on peut dire sur eux. Et donc, c'est des humains et on les laisse en repos. On les désigne plus.
Vous êtes indulgent à l'égard de cette histoire de l'humanité ?
Oui. Je pense que, d'abord, parfois, les bourreaux peuvent devenir victimes. Et puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Kundera où il dit « Il faut que les vieux morts laissent la place aux jeunes morts ». Et en même temps, nous vivons constamment dans le drame et dans la cruauté, et aujourd'hui tout spécialement, je pense. Et en même temps, il y a toujours de nouveaux jeunes morts. Donc on doit oublier les vieux morts.
Alors, ce thème donc, nous accompagne. Il est probable qu'une partie de ces sujets que vous avez abordés nous laisse penser, ou vous laisse dire peut-être, qu'une partie des vivants ont une partie de mort en eux. Je me souviens de ces photos d'enfants que vous rassemblez dans beaucoup d'occurrences et qui sont ce qu'il y a de mort en nous, c'est notre enfance en fait.
Nous portons un enfant mort en nous, c'est Tadeusz Kantor qui le dit, et pour moi c'est tout à fait vrai, nous portons un enfant mort en nous, et petit à petit, cet enfant, on l'oublie. Et je pense qu'un des rôles d'un artiste, ou de moi en tout cas, c'est d'essayer de se souvenir de cet enfant. Il y a une chose extrêmement belle qui est dans la tradition juive, c'est que les enfants, dans le ventre de leur mère, savent absolument tout. Et puis, quand ils naissent, un ange arrive et leur fait « chut ». Et il y en a un petit trait ici qui marque ça. Et après ça, on oublie tout. Et puis, toute notre vie, on va essayer de retrouver ce qu'on savait dans le ventre de notre mère. Et j'aime beaucoup cette anecdote, parce que je pense que c'est vraiment ça. Que les bébés savent des choses que nous oublions petit à petit, que nous recherchons à retrouver.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite fille qui vous a touché et dans cet esprit-là ?
Des gens m'avaient raconté que leur fille de 5 ans, quand ils ont attendu un nouveau bébé, la petite fille a dit « Je veux absolument parler au bébé, je veux absolument parler au bébé ». Et donc, le bébé est né et la petite fille dit « Je veux comment faire avec le bébé ?» Donc ils ont eu un peu peur et ils ont mis un interphone entre les deux. Et la petite fille a dit « Bébé, parle-moi de Dieu parce que je commence à oublier. » Et donc c'est effectivement la même chose, comme si petit à petit on oubliait l'importance.
C'est extraordinaire l'idée que le nouveau-né se souvienne forcément.
Oui.
Voilà. Alors là, nous avançons doucement dans l'exposition et nous allons traverser des visages, des regards. De qui, Christian ?
C'est réellement personne. Enfin, c'est personne, c'est des gens, forcément. Et des gens, chacun est unique. Mais c'est, disons, en fait, j'ai fait cette pièce en Grèce, donc ces regards sont des Grecs. Mais pour moi, ce sont des fantômes, parce qu'ils sont imprimés sur des voiles très, très pâles. Et c'est une sorte de labyrinthe, et tous ces gens nous regardent. Ce sont des sortes de témoins, ils nous regardent. Et on les traverse, on se perd au milieu de ces regards.
Alors on est passé en marchant devant une œuvre assez curieuse. On a l'impression que vous faites allusion à ce que nous sommes, ce misérable petit tas de secrets, sauf que c'est ce que vous êtes. C'est la vie impossible de Christian Boltanski. Ce sont des panneaux...
Oui, là vous savez, c'est un truc, c'est que quand quelqu'un meurt, souvent on retrouve chez lui une boîte de carton. Et dans cette boîte de carton, il y a des photos, il y a des lettres, il y a des... Et on ne sait jamais qu'est-ce qui a été important et pourquoi cette personne a gardé tous ces petits éléments. Et puis, on ne sait pas si le ticket de train n'est pas plus important que la lettre du président, directeur général. Et qu'est-ce qui nous est vraiment important pour nous. Dans ces vitrines, il y a toute ma vie, vraiment toute ma vie, tous les gens que j'ai pu aimer et connaître. Et il n'y a que moi qui le sais, et ça restera, et ça reste totalement incompréhensible pour tous ceux qui regardent. Et donc, il y a, oui, tout ce qu'on peut avoir dans son tiroir et qu'on n'a pas envie de jeter.
On a l'impression aussi qu'il y a les sollicitations que vous exercez sur les uns et les autres, celles que vous recevez, la façon dont on est tiraillé par mille choses et qu'il est impossible de faire face à cet amoncellement.
Il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, quand je faisais l'exposition, il y a une vingtaine ou 25 ans, je recevais énormément de lettres, avec des beaux papiers en tête, avec des belles signatures. Et aujourd'hui, on reçoit des mails que forcément on efface. Donc, toutes ces traces qui sont dans ces vitrines disparaissent.
L'art et la matière, France Culture, Jean Deloisy.
Alors, il y a un élément devant lequel nous sommes passés tout à l'heure. Je ne me souviens plus du titre de cette œuvre que j'aime énormément, en marchant d'une œuvre à l'autre. C'est un tapis d'ampoule, et c'est parce que vous dites qu'il y a toujours quelque chose qui disparaît comme ça, qui me fait penser à cela. Et j'ai l'impression qu'il y a moins d'ampoules allumées que lorsque je suis venu la première fois.
Donc c'est quelque chose qui s'appelle crépuscule. Et effectivement, chaque jour, deux ampoules, d'une manière automatique, s'éteignent. Et donc à la fin de l'exposition, cette salle qui est extrêmement lumineuse, éblouissante, sera totalement noire. Et on voit le temps qui passe, et c'est là encore une sorte d'image de notre vie. Et à la fin, c'est noir.
Alors, il y a quelque chose qui est curieux, parce que quand je vous entends à l'instant, on peut se dire que ce garçon est vraiment très triste, quelle mélancolie. Et en même temps, très souvent, quand on vous connaît dans la vie, dans nos vies ordinaires, l'humour est tout le temps là, il y a une distance, il y a une façon de se résoudre à être joyeux malgré tout.
Je suis un homme extrêmement joyeux et bon vivant, ça se voit. Et c'est lié, vous savez, il y a cette chose que j'aime beaucoup dans La Recherche du Temps Perdu. Il y a un homme qui est extrêmement malheureux parce qu'il vient de perdre sa femme et ses amis l'amènent dans le jardin. Il marche la tête baissée, puis il regarde le ciel et il dit « Mais il fait beau aujourd'hui. Oh, regardez ces fleurs, elles sont si belles. » Il fait « Oh, j'avais oublié. » Et donc, je pense qu'on ne peut vivre que parce qu'on oublie. Et je dis toujours « Sainte légèreté ». Sainte légèreté qui nous fait oublier le malheur de la vie.
Il y a quelque chose qui est très réconfortant, c'est que le cœur bat. On l'entend, il rythme toute une partie des salles de l'exposition et il anime une bougie que je vois au loin, une ampoule que je vois au loin. C'est une ampoule.
C'est une ampoule ordinaire, mais qui bat au même rythme que mon cœur. Ça, c'est mon cœur d'il y a 12 ans. Je pense que mon cœur aujourd'hui est en moins bonne qualité, mais c'est mon cœur d'il y a 12 ans.
On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un médecin, en écoutant votre battement de cœur, s'est dit il faut peut-être que vous consultiez.
Non, c'est moi, la première fois où j'ai fait cette œuvre, je l'ai montré, le lendemain j'étais chez un cardiologue. Parce qu'évidemment c'est très douloureux d'entendre son intérieur. On n'aime jamais entendre son intérieur. Quelquefois la nuit, on entend sa veine qui bat ou des choses comme ça, c'est toujours très pénible. Et donc à l'époque j'avais le cœur qui battait beaucoup trop vite, mais bon, pour le moment ça va. Et ça a été le point de départ d'un projet que j'ai fait dans l'île de Tsushima, dans la mer du Japon, où nous avons recueilli aujourd'hui autour de 80 000 battements de cœur. Et quand vous allez dans cette île qui est très belle, il y a une petite maison et vous entrez dans une sorte de, comme une cabinet de dentiste. Et là, vous dites, je veux écouter le cœur de Madame Machin qui a été enregistré à tel endroit. Et puis, il y a des ordinateurs et vous pouvez écouter ce cœur et même l'entendre dans une salle. Et dans toutes les cultures, le cœur est l'endroit de la vie, l'endroit de l'âme. Donc, effectivement, ça m'intéressait de faire ça à cause de cela. Et aujourd'hui, ce lieu est très, très visité. Il y a vraiment des queues continuelles. Et ce n'est pas du tout à cause de moi, c'est parce que c'est un endroit de pèlerinage. Et pour les Japonais, ils viennent écouter leur grand-mère. Ils viennent. Alors, naturellement, quand on y va et qu'on écoute le cœur de quelqu'un disparu, on sent beaucoup plus son absence que sa présence. C'est comme quand on regarde une photo de quelqu'un. Mais c'est un lieu de pèlerinage. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de créer des légendes, des lieux de pèlerinage, beaucoup plus que de faire des œuvres qui sont solides, disons.
C'est curieux parce que vous faites des lieux de pèlerinage, vous en avez réalisé. Donc celui-là, ce que vous venez de décrire, en est un. Il y en a un autre dans les sous-sols du musée d'art moderne, qui est une sorte de... Est-ce que c'est un lieu de pèlerinage? En tout cas, c'est un lieu de conservation de quelque chose de particulier.
Dans le sous-sol du musée d'art moderne, il y a des milliers d'annuaires du téléphone. C'est une pièce ancienne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'annuaires du téléphone. Mais je voulais rassembler le plus de gens possible dans un petit lieu. C'est-à-dire que c'était pour l'an 2000. Et l'idée que j'avais pour l'an 2000 était de nommer tous les habitants de la Terre.
Mais c'est ambitieux.
C'est ambitieux, oui. Surtout que le problème, c'est que les gens meurent et naissent si rapidement que la liste ne peut jamais être complète. Parce que dès qu'on a dit trois dates, trois noms, ça y est, il y a quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est né. Donc j'ai renoncé à ce projet et j'ai collectionné les annuaires de tous les pays du monde qui se trouvent dans le sous-sol du musée d'art moderne. Maintenant, c'est un petit peu vieux, mais avant, c'était utile si on cherchait une pizzeria à Lagos ou un truc comme ça. On avait vraiment tout qui était là.
Donc, mais c'est assez émouvant de savoir tous ceux qui ont existé.
Oui, c'est comment... Voilà. C'est donc pas tous les hommes qui vivent sur Terre, mais c'est une grande partie des abonnés du téléphone.
Mais alors, ça me fait penser, parce que parfois, cette idée des listes vient souvent dans votre travail, et je me souviens d'un fronton du pavillon international de Venise, où il y avait une autre liste qui était une forme de vanité, au sens de la vanité, et non pas de la méditation sur la mort.
C'était une vraie vanité, parce qu'il y avait la liste de tous les participants à la Biennale, depuis le début de la Biennale, et je ne sais plus, il y avait 2000 noms, un truc comme ça, et un bon historien d'art pouvait se souvenir que d'un dixième ou un cinquantième de ces noms. Et donc tous les autres étaient dans la, comme on dit, dans la poubelle de l'histoire. Et je me disais que tous ces gens qui avaient été tellement heureux d'exposer à Venise, et aujourd'hui, et j'avais mis mon nom également, aujourd'hui ils me sont totalement oubliés. Et donc c'est un... Voilà, c'était une vanité là encore.
Voilà, la gloire vaine fumée, hein, vain tourbillon. Et alors là, nous rentrons dans une salle extrêmement belle. Je suis dans une grande salle grise où il y a des visages d'enfants qui surmontent des encadrements qui donnent l'impression d'être des encadrements disposés en, comme des monuments, comme des et de papier, d'emballage, de papier alors, de Noël. De papier.
Voilà, j'ai fait beaucoup de monuments, si on veut, dans ma vie, mais au lieu de les faire en marbre ou en bronze, je les ai faits de manière beaucoup plus dérisoire. Donc là, il s'agit de papiers de Noël qui sont refotographiés. Les enfants sont des enfants qui étaient, quand j'étais en maternelle, qui étaient mes petits copains, parce que j'avais retrouvé une photographie de ce temps. Et donc, voilà, c'est en même temps des formes qui peuvent rappeler des formes religieuses, mais pas d'une religion très précise. Ça peut être chrétien ou musulman. On sent que c'est des petits oratoires, mais également dérisoires.
Alors, Christian, nous allons poursuivre notre visite, mais je vais rappeler à nos auditeurs que je suis avec Christian Boltanski au Musée national d'art moderne pour visiter son exposition qui s'appelle « Faire son temps ». Et nous sommes en train de nous promener d'une salle à l'autre et nous rentrons dans une salle très impressionnante dans laquelle il y a justement des monuments. Est-ce qu'on appelle
là,
ça comme
c'est,
ça
c'est aussi des monuments que j'appelle des réserves, mais aussi des monuments. Et là, c'est effectivement la source des images qui sont là viennent principalement d'un lycée juif à Vienne. Et j'avais trouvé cette photo, qui était une photo de fin d'études, ils doivent avoir 16-17 ans. Et en agrandissant les visages, je trouvais que leurs visages étaient comme des crânes, parce que les yeux étaient totalement rentrés à cause de l'agrandissement, comme s'ils avaient la mort en eux. Et donc, c'est une série de monuments à ces gens.
Vous avez utilisé ces boîtes à biscuits, ces boîtes en fer blanc assez tôt, et ça donne la sensation qu'ils ont tous un secret ou qu'il y a quelque chose.
La boîte de biscuits m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai dû manger beaucoup de biscuits dans ma vie parce que j'ai utilisé beaucoup de boîtes de biscuits. Parce que, à la fois, c'est un objet tout à fait minimaliste. Et j'ai été formé à l'art par le minimalisme. Et en même temps, c'est le trésor, c'est le coffre-fort du pauvre. C'est là où notre grand-mère mettait ses lettres précieuses et peut-être une fleur qu'elle avait eue au moment d'un bal. C'est là où les enfants gardent leurs petits souvenirs. Et ça rappelle aussi naturellement les urnes funéraires. Donc cet objet, qui est un objet totalement simple et minimal, est aussi un objet très chargé d'une manière sentimentale. Je pense toujours qu'il ne faut pas que les gens découvrent, mais qu'ils reconnaissent. Je souhaite pour mon travail qu'ils reconnaissent toujours quelque chose qu'ils ont eu et qu'ils ont connu et aimé.
Alors c'est ce qui touche, je pense, le public dans cette exposition et dans votre œuvre en général, c'est qu'elle nous concerne tous. Il y a toujours des éléments qui sont les nôtres, et de ce fait, les visages deviennent les visages de nos amis, de nos proches, de nos lointains.
On ne peut parler que de ce que l'autre sait. Sinon, il n'y a pas les mots pour le dire et on ne se ferait pas comprendre. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme quelqu'un qui soulignerait un mot dans un texte. En gros, je pense que tous les humains savent tout et que l'artiste peut désigner quelque chose qui est su et qu'on partage. Il y a une sorte de partage avec l'autre d'une chose commune. Vous savez, il y a cette histoire comme ça, qui est une histoire drôle de premiers gens qui vont sur la Lune, puis on leur dit à quoi ressemble la Lune et comment décrire quelque chose que personne n'a vu. Donc ils disent un terrain de baseball avec des trous. Parce que effectivement, un terrain de baseball avec des trous, on peut savoir ce que c'est, mais comment décrire quelque chose que personne n'a vu ? C'est pour cela que je pense qu'il n'y a aucun moyen de raconter la Shoah, puisque c'est une expérience totalement unique.
Christian Boltanski, il vous est arrivé de dire que, au fond, votre œuvre qui a cet aspect très retenu, très minimal, très construit, qui correspond au vocabulaire d'une époque, n'empêche que vous vous considérez parfois comme un artiste qui aurait souhaité, ou qui l'est malgré tout, expressionniste.
Je pense que c'était peut-être une chance pour moi. Je pense que j'ai un tempérament expressionniste. Et puis qu'on est dans une période de l'art, et que je suis né à la période du minimalisme, et que ça a refroidi ma tentation d'être trop expressionniste. Et que ce refroidissement a été une chose positive pour mon art. Et donc, vous savez, il y a une chose qui toujours m'intrigue énormément, c'est qu'entre Watteau et David, il n'y a pas beaucoup de temps, et c'est un monde complètement différent. Donc, il y a une chose qui est plus forte que l'individu même, qui est le temps dans l'histoire. Le temps, on se situe dans l'histoire. Et moi, je suis né, effectivement, dans cette période du minimalisme.
Alors, vous êtes né dans une période du minimalisme, mais au fond, sans appartenir véritablement à une avant-garde théorique ou une avant-garde, vous avez toujours été du côté du récit, plutôt inspiré par des artistes, sinon narratifs, du moins qui étaient littéraires.
Oui, aujourd'hui, quand je revois mon travail, je pense que vraiment, c'est ça le moment de poser des questions. Et vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Mais au lieu de poser des questions par des mots, c'est par des sensations, par des odeurs, par des lumières, par des images, mais c'est poser des questions. Et surtout, donc, de ne pas donner de réponse, mais en plus, je compare toujours les expos que je fais quand on est dans le sud de l'Europe, il y a des églises, la porte est ouverte, on entre, il y a un monsieur qui lève le bras, il y a une odeur, il y a parfois de la musique, on voit des images au mur, puis on s'assoit et on reste là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et on sent qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis au bout d'un quart d'heure, on en a marre et on va manger au soleil. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, de visiter une exposition, et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
Alors, on est dans une salle où il y a un manteau au mur, un manteau noir, installé très haut et entouré d'ampoules bleues. Ce thème du manteau, on va en parler, puisqu'il a été de très nombreuses fois dans votre œuvre et de façon très très différente. Celui-ci donne l'impression d'être comme en ascension.
C'est une image christique, disons. Oui. Mais en même temps, c'est n'importe quel homme. C'est l'image de n'importe quel humain.
C'est quasiment ce qu'est le Christ, d'ailleurs.
Voilà, absolument. C'est ce que je pense. Donc, évidemment, c'est une allusion à ça. À un moment, je voulais fonder une religion qui s'appelait le christianisme, parce que comme je m'appelle Christian. Et donc là, je pensais justement à la beauté de la... que chaque homme est divin. Mais j'ai renoncé.
Alors, comme cette religion n'est pas fondée, vous avez néanmoins réutilisé quelques-unes de ces pompes, et en particulier les manteaux. Et justement, sur une question qui était liée à cette idée de la résurrection, je me souviens, je pense que c'était à Saint-Eustache, où vous avez demandé aux fidèles de Saint-Eustache, sous l'influence du père... Comment s'appelait-il ?
Benedetto. Oui, là, c'était une sorte de rituel. Je me suis toujours beaucoup intéressé au rituel. Le dimanche d'avant Pâques, les fidèles déposaient un manteau qui leur appartenait. Et puis, le vendredi, les manteaux étaient mis au sol, comme une sorte d'immense tapis. Et le dimanche de Pâques, les gens reprenaient un manteau, mais pas forcément le leur, et le donnaient, c'était au moment de la guerre de Yougoslavie, le donnaient pour que ça parte en Yougoslavie. Donc il y avait l'idée du don... de la mort et de la résurrection, puisque ce manteau allait repartir. Je me suis beaucoup habillé aux puces, et j'aime beaucoup les puces, parce que vous avez un objet sur le sol, et cet objet a dû appartenir à quelqu'un, il a dû être aimé, et cette personne ou est morte ou n'aime plus cet objet, et puis on lui dit « viens avec moi », on le prend, et il a une deuxième vie. Et l'amour qu'on porte à ce vêtement lui rend la vie. Et c'est une chose que je crois profondément.
Mais il n'est plus près non plus du vêtement qu'une dépouille.
Pour moi, un corps humain ou un vêtement, c'est exactement la même chose. Ou un vêtement usagé, c'est la même chose. C'est, il y a eu quelqu'un. Et c'est la présence qui montre, qui désigne l'absence. Il y a eu quelqu'un.
Est-ce que c'est le sens, quand on a fait autant d'expositions que vous, lorsqu'on a raconté 100 fois, 1000 fois ces histoires que vous avez la gentillesse de nous raconter aujourd'hui, et en y apportant à chaque fois d'autres talents, d'autres variations, est-ce que c'est une raison justement de le faire, c'est de dire, voyez, il y a quelqu'un?
Oui, et puis il y a ces questions que je n'ai jamais résolues, donc que je continue à poser, et vous savez, je pense qu'on fait toujours la même chose et que je dis toujours la même chose, mais c'est un peu comme quand on fait un voyage en Italie et on peut parler de la cuisine, on peut parler du paysage, on peut parler des gens qu'on a rencontrés, et selon les âges de la vie, on raconte ce voyage de manière différente. Et maintenant, je suis très souvent au Japon et très influencé par les religions orientales, et donc en ce moment, par exemple, les 90% des œuvres que je fais sont détruites après, et on peut les refaire comme... Pour moi, c'est un peu comme des sortes de partitions musicales qu'on peut rejouer. Et ça vient des shintoïstes qui font des temples. Et ces temples qui ont 600 ans sont rasés tous les 20 ans et refaits à l'identique. Et donc, je ne sais pas, la pièce du Grand Palais, personne, a été jouée dans de nombreuses vies, de Shanghai à New York et à Milan et partout. Mais à chaque fois, il n'y avait pas de transport et on l'a rejouée. Donc, tant que je suis vivant, je rejoue ma musique. Et puis un jour, j'espère que Madame Michu va rejouer ma musique. Et on dira, elle l'a bien rejouée ou elle l'a mal rejouée. Et donc, il n'y a plus vraiment, pratiquement plus, d'objets au sens qu'on peut accrocher chez soi. Ou qu'on peut, on peut le faire, mais on peut le détruire et le refaire.
Quand vous parlez de personnes, c'est la grande installation Monumenta qui avait été de cette exposition, dont le commissaire avait été Catherine Grenier, et qui est une exposition extraordinaire où justement il y avait, comme on l'a vu au début de l'exposition ici, c'est-à-dire à la fin, curieusement, plus personne ne va rien y comprendre, dans l'espace du Grand Ornu, une grande montagne de vêtements, mais cette fois-ci colorée, et une grue qui venait en retirer quelques-uns, en laisser retomber quelques-uns. Et c'était une sorte d'impression d'être pris par hasard.
C'était pour moi la main de Dieu. Plus on vieillit, c'est comme si on marche une route, puis ses amis sautent les uns après les autres, on continue à marcher, mais on se demande toujours pourquoi celui-là a sauté et pas nous. Donc c'était là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à la transmission aujourd'hui, et je pense qu'il y a une grande différence entre l'Occident, où la transmission se fait par l'objet, par la relique, par le petit bout d'os, Et puis, dans les pays comme le Japon, où la transmission se fait par la connaissance. Les temples japonais sont tous faux, enfin, ils sont tous refaits constamment, ils sont très fragiles, mais il y a des gens qu'on appelle monuments nationaux parce qu'ils savent le faire.
Alors nous sommes maintenant arrivés à un moment de l'exposition que vous avez choisi pour être, après une sorte d'introduction, la première salle. Et la première salle, curieusement, c'est une dérision de la mort dans la tradition des danses macabres du XVe siècle. Et une danse macabre qui est très amusante, c'est simplement un théâtre d'ombre portée. Et il est à la fois inspiré probablement par les danses macabres européennes et françaises particulièrement, mais aussi avec les théâtres d'ombre asiatiques. Et il est fait avec pas grand-chose.
Oui, là c'est la pièce la plus joyeuse de l'exposition peut-être. Enfin, une des plus joyeuses, parce que c'est des fantômes pour les enfants. C'est des gentils fantômes. C'est des gentils danses macabres.
Vous étiez donné des règles, comme par exemple les faire avec pas grand-chose.
Oui, j'essayais toujours de faire le tour de chez moi et de trouver quelques brindilles ou une feuille et de travailler avec ça.
Alors, c'est certains des diables, il y a des visages grimaçants, des nez pointus, des squelettes, des diables à long nez ou à nez tordu, c'était probablement des grands menteurs. Et on s'aperçoit, c'est pas la peine de se pencher, mais si jamais on le fait, on s'aperçoit que c'était fait sur ce mur circulaire et produit par pas grand chose. Et cette différence, comme ça, entre une grande scène classique de l'histoire de l'art et le pas grand chose qu'il a produit, est quelque chose qui a dû vous plaire.
Ce qui est amusant, c'est que on peut avoir tout ça dans sa poche et remplir un énorme espace avec presque rien. Et aussi que, c'est pour ça que j'ai des ampoules dans l'exposition, c'est encore l'image de la vie, on éteint, il n'y a plus rien. Donc c'est la vieille tradition des bougies, enfin, qui donne la lumière, mais en même temps, qui est une lumière qui peut s'éteindre à chaque instant.
La semaine dernière, nous avions vu l'exposition Bacon. Et c'est un point commun avec Francis Bacon, ce goût de la lumière, de l'ampoule mal éteinte ou l'ampoule fragile.
Il y a beaucoup d'ampoules chez Bacon et chez moi, mais c'est pas la même chose malheureusement. Mais je pense que si on demande à un enfant de dessiner l'intérieur d'une maison, il va suspendre au milieu une ampoule. Et je pense que l'ampoule est vraiment le symbole, en cette mesure, de la vie. Et chez moi, et peut-être chez Bacon, ça je ne sais pas, la vie qui peut à chaque fois s'éteindre.
Maintenant que nous avons fait, nous ne sommes pas au bout de notre parcours, mais on en a fait une bonne partie, et donc nous rajeunissons petit à petit, parce que là on est vers quelles années? On est vers 84, par là
84, oui, quelque chose comme ça.
À peu près, donc c'est des œuvres qui ont été montrées au consortium, par exemple.
Qui ont été montrées au consortium, oui, oui. Hein? C'est-à-dire que j'ai fait une exposition ici au Centre Pompidou, en 84, et qui étaient des petits jouets, comme ceux-là, que je faisais, et qui étaient agrandis photographiquement, et avec des grands cadres. Il y en avait qui faisaient, je ne sais pas, 2,50 m de haut, des choses comme ça. Et puis cette exposition ne m'a pas comblé, enfin mon œuvre ne m'a pas plu. Et puis tout ça est rentré chez moi, et j'ai vu toute cette lourdeur, tout ce que ça prenait de place. Et là, j'ai commencé à jouer avec les mêmes petits objets que j'avais fabriqués, et je me suis dit que finalement, de les projeter était beaucoup plus léger et beaucoup mieux.
Alors c'est drôle parce que cette exposition, moi je l'ai vue, j'en garde un merveilleux souvenir. Il y avait les jardins chinois faits de presque rien, des pantins en carton découpés et photographiés. Il paraît que vous n'aviez rien vendu du tout à l'époque, ça n'avait intéressé que peu de gens. Moi j'avais adoré, et vous ne l'aimez pas non plus. Zut alors.
Vous savez, d'abord, il y a toujours des allers-retours et il est toujours très pénible de regarder son propre art. Parce qu'on y voit toutes les faiblesses, et les faiblesses qu'on ne peut plus transformer. Même dans cette exposition, j'ai beaucoup travaillé sur cette exposition pendant très longtemps, et avec un groupe de gens merveilleux autour de moi, et il y a deux ou trois trucs que j'ai moi changé, bon, mais c'est ainsi.
C'est ainsi. Alors, Christian Boltanski, puisque vous avez perdu quelques-uns des poils de barbe, et maintenant vous êtes presque glabre après avoir fait le tour à l'envers de votre parcours, nous arrivons à un moment où votre neveu vous décrit en train de travailler dans la maison de vos parents, j'imagine, et vous êtes dans l'atelier et il est en train de vous décrire. Et donc, on va l'écouter. Écoutons-le.
Il ne semblait marquer aucune différence entre les moments où il s'amusait et ceux plus solitaires où il travaillait. Il fabriquait quantité d'objets qui s'intégraient à nos jeux. bateaux en carton, montagnes faites à partir de toiles rêches et de papier mâché, édifices ou planeurs découpés dans du bois léger. Il opérait bien pourtant une distinction entre son monde et le mien. Comme un gamin pas partageur, Christian confectionnait aussi des jouets qu'il gardait pour lui. Marionnettes, pantins, figurines, des personnages entreposés à part, aux statues ambiguës, mi-joujou, mi-fétiche. Tout un bric-à-brac à la fois comique et inquiétant. Comme ces boîtes en fer blanc, empilées le long du mur, que je n'ai jamais osé ouvrir, de peur d'y découvrir quelque chose sur nous.
Je suis toujours avec Christian Boltanski et puisque votre neveu raconte comment vous travaillez à ce moment-là, d'ailleurs j'ai l'impression que vous travaillez toujours à peu près comme ça, assez près du sol.
Je suis retraité aujourd'hui
et, c'est ça, oui.
Et je travaille extrêmement peu et j'ai été professeur une très grande partie de mon existence et je disais toujours à mes étudiants la seule chose qu'on peut faire en art c'est attendre et espérer. Et alors, j'attends et j'espère. Et on peut attendre très longtemps et espérer très longtemps. Et puis, de temps en temps, on a l'impression qu'on a quelque chose qu'on a envie de dire, et puis on le fait. Mais la sagesse est certainement de ne rien faire. Et malheureusement, il est extrêmement pénible et dur de ne rien faire. Et donc, on s'agite. On dit, il faut absolument que j'aille à Francfort demain voir le professeur Chung Chung. Et ça n'a aucune utilité, mais au moins, ça nous donne l'impression qu'on est quelqu'un de normal, qu'on doit se lever tôt, qu'on doit faire quelque chose. Mais en fait, c'est seulement d'être assis et d'attendre, c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire.
Alors, quand vous étiez un jeune artiste, vous travailliez de votre côté en recréant des éléments de votre enfance. Il y avait cette volonté déjà de recréer des éléments de votre enfance. Et on décrit donc dans cette partie-là je suis devant une vitrine avec des avions qui sont recouverts de. C'est des avions en papier recouverts de plastiline ?
Non, c'est des avions en plastiline. L'idée était d'essayer de se souvenir d'objets que j'avais eus. Et de les refaire en plastiline. Et le choix de la plastiline était fait parce que ça se détruit. Et j'en ai en fait une cinquantaine. Je pense que c'est les trois derniers qui restent, ou il y en a peut-être cinq. D'essayer de sauver de l'oubli, et en même temps de sauver de l'oubli, en sachant qu'on l'a fait dans une matière qui elle-même va se détruire.
Alors il y a un joli texte aussi de votre neveu. Sur là-dessus, nous allons l'écouter. Écoutons-le quelques instants.
Il s'entêtait à vouloir donner forme à une matière qui en est l'ennemi. Par un rejet des entreprises durables et de la vraie sculpture, il choisissait de préférence des substances molles, des corps limoneux, comme la pâte à modeler, qui finissaient par durcir et tomber en poussière. La plasticine recouvrant ses avions en papier partait en lambeaux. Il procédait alors à des réparations de fortune, replâtrait les trous, à l'instar d'un ingénieur aéronautique au chevet d'un Concorde qui perdrait ses lamelles en titane. Il composait aussi de mystérieux caractères cunéiformes, faisant un peu penser à l'écriture assyrienne, à partir de morceaux de sucre blanc qui, sous l'effet de l'humidité, se dégradaient à leur tour. Il livrait des batailles perdues d'avance. Régulièrement, il détruisait ce qu'il avait fait et recommençait. Il aimait l'idée du ratage, de la fragilité de l'existence, de l'impossibilité à sauver ce qui a été.
sommes toujours avec Christian Boltanski. Nous sommes maintenant arrivés à l'orée de son exposition. Nous avons fait le chemin à l'envers. Et quand nous rentrons dans l'exposition, les deux premières pièces sont, les deux premières œuvres de l'exposition, celles qui vous accueillent, c'est une peinture qui est là très tôt. Vous avez un personnage sur une terre ronde, une sorte de petit prince triste et abandonné.
C'est une sorte de chambre ovale, là encore. Et c'est un tableau que j'ai fait en 67. J'ai fait énormément de tableaux. Heureusement qu'ils sont tous détruits, quasiment tous détruits.
Alors vous l'avez mis à un endroit où il ne faut absolument pas le mettre, dans l'ombre quasiment.
Pour moi, c'est un travail d'outsider. Quand j'étais jeune, j'étais très différent. Et tous ces tableaux que j'ai peints étaient plutôt liés à oui, comme même L'homme qui tousse, peut-être d'outsider. Alors L'homme qui tousse, c'est amusant. Quelqu'un a dit récemment, ça m'a amusé, que c'est mon frère qui tousse, mon vieux frère, et il crache de la peinture. Et effectivement, il crache de la peinture, je n'ai plus jamais peint. Et donc peut-être que L'homme qui tousse est moi-même qui se débarrasse de la peinture. Et après ça, ça s'est arrêté. Il y a dans cette salle quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et que j'ai fait spécialement pour cette exposition. C'est un film qui passe dans le couloir, ou le couloir de sécurité derrière. Et c'est un film que j'ai fait avec un téléphone que j'ai fait en Pologne dans un train. Et donc, on voit un paysage qui passe très, très vite. Je l'ai même accéléré. J'ai travaillé beaucoup en laboratoire. Et donc, on le voit partout dans l'exposition. Et c'est simplement un moyen de rappeler que pendant qu'on est là à regarder ces œuvres, la vie va très vite. Et que ça ne peut pas s'arrêter, la vie va très très vite.
La vie va vite, Christian Boltanski, et grâce à vous, elle est passionnante. Merci infiniment, Christian, pour cette visite que vous nous avez offerte au Centre Pompidou. Merci, Christian.
Merci à vous.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons visité avec Christian Boltanski son exposition au Musée National d'Art Moderne, Faire son temps, une exposition qui vient d'ouvrir au Centre Georges Pompidou. C'est une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Vous retrouverez d'ailleurs les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Hélène Losseur. Prise de son, Hélène Langlois. Réalisation, évidemment, Franck Lilin. Merci Franck. La semaine prochaine, nous rencontrerons Ming et nous parlerons de son exposition au Petit Palais à Paris. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.